Donc, si vous avez été avec nous la semaine dernière, vous savez, on a fait, on a débuté une série la semaine dernière sur le livre d'Habacuc. Habacuc étant un petit prophète, on dit petit prophète parce qu'il a écrit un petit livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et sur 3 semaines maintenant, on est à la semaine 2/3, on fait l'étude de ce livre-là. Avant d'aller plus loin ce matin, ouvrons nos cœurs en prière, disposons nos cœurs pour entendre de Dieu ce qu'il voudra bien nous dire ce matin. Éternel mon Dieu, ce matin, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que tu te révèles à nous, Seigneur, d'une manière, d'une autre, mais particulièrement dans ta parole, Seigneur. Et ce matin, je te prie que nos cœurs puissent être grands ouverts à recevoir de toi ce que tu voudras bien nous donner à travers ta parole. Viens, Seigneur Dieu, et agis, Seigneur, en nous et à travers nous, dans le nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, ce matin, nous sommes dans cette série. Si vous n'avez pas eu l'opportunité d'entendre le premier message, sachez que sur le site de l'Église, il est possible de toujours réécouter les messages. Donc, si ça pique votre curiosité, ce matin, vous pouvez retourner et entendre le premier message également. Donc, une série sur le livre d'Habacuc, dans laquelle on apprend sur 3 postures intérieures, donc 3 attitudes, 3 pratiques spirituelles qui nous aident à faire face à l'injustice collective et à la souffrance. On a parlé lors de notre dernier message, c'est encore un enjeu. Je pense dans le monde, c'était un enjeu il y a plusieurs centaines d'années, c'est encore un enjeu aujourd'hui. Le cœur de l'homme n'a pas changé et l'enfant de Dieu continue à avoir besoin de trouver les bonnes postures intérieures pour faire face à tout ça. On a vu que devant l'injustice, l'enfant de Dieu prend 3 postures. Il parle, il attend et il regarde. La semaine dernière, on a vu la première posture. Parle. Et dans cette première posture-là, juste si vous étiez absent, on va faire un petit récapitulatif, c'est-à-dire un petit sommaire de qu'est-ce qu'on a vu. On a vu que Habacuc, comme beaucoup d'autres prophètes, comme beaucoup d'autres héros de la foi, il a été confronté à des incompréhensions. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas, même s'il aimait beaucoup Dieu, même s'il avait beaucoup la foi, quand il regardait le monde autour de lui, il avait de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas de la manière dont je m'attendrais qu'il agisse finalement. Et donc, il y a eu à jongler avec ça, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu aussi que Habacuc a pris une décision courageuse. Il a décidé de partager son vécu, cette prière-là intime qu'il a eue avec Dieu, ces combats-là à l'intérieur de lui. Il a choisi de l'exposer, en fait, à l'ensemble de la communauté. Comment on sait ça? Bien, on a le livre d'Habacuc. S'il avait gardé ça pour lui, on n'aurait pas eu le livre d'Habacuc dans notre Bible. Donc, Habacuc a choisi d'être transparent et d'exposer ses défis spirituels à l'ensemble de la communauté, donc d'en faire un enrichissement pour nous aussi aujourd'hui. De manière plus spécifique, on a vu que parler, c'est prendre le temps d'exprimer à Dieu en détail l'offense et ses répercussions. Donc, autant les méchants qui font partie de son peuple et qui créent le chaos social que l'envahisseur que Dieu lui a dit va venir, il prend le temps de détailler à Dieu, de lui exprimer c'est quoi toute cette méchanceté-là. On a vu qu'il prend le temps de dialoguer aussi avec Dieu par rapport à ses incompréhensions, par rapport à ses émotions. Donc, il est vrai avec Dieu, là. Totalement transparent par rapport à qu'est-ce qui se passe. Il n'est pas en train de se censurer, là. Mais il se présente tel qu'il est à Dieu. On a vu aussi qu'il choisit d'appeler Dieu au secours en reconnaissant qu'il n'y a pas personne d'autre ou rien d'autre qui peut répondre à ses besoins, répondre à ses questions. Donc, dans ce parler-là, Habacuc choisit de continuer à s'ouvrir à Dieu, il choisit de continuer à l'appeler à l'aide. Et ce matin, on va aller dans la deuxième posture qui s'appelle tout simplement « Attends ». Y en a-tu ici qui aiment ça, attendre? J'ai-tu des gens qui sont passionnés là, de faire la file d'attente à l'épicerie, qui se disent « Oh yes, l'heure de pointe à l'épicerie ou dans le trafic à Montréal. Eh là là! » Est-ce que c'est agréable d'attendre? Est-ce que c'est naturel? J'ai envie de vous dire, pas tellement, non. Il y Il y a des personnalités qui sont plus patientes. Hein? On les regarde aller, puis on dit « Mon Dieu, qui sont patients, on les admire. » Mais en général, ça ne fait pas partie de nos préférences d'attendre. Et j'aimerais dire aussi, notre culture nord-américaine n'est pas très patiente non plus. Hein? On se met quelque chose dans le micro-ondes, puis on commence à taper du pied. « Bon, c'est donc bien long, une minute pour réchauffer mon repas. » Et là là! Hein? Mais Dieu nous appelle à attendre. Et ce matin, on va voir ça dans le texte d'Habacuc. Donc, ce matin, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Plutôt que de vous lire complètement le texte, on va lire une section du texte, on va prendre une pause, faire ressortir certaines choses, et on va continuer comme ça graduellement. Donc, commençons tout de suite à voir qu'est-ce qu'Habacuc nous dit dans le deuxième chapitre. Donc, Habacuc écrit ceci. « Moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Alors, le Seigneur m'a répondu. Écris ce que je te fais connaître et écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. » Donc, dans le premier chapitre, Habacuc a parlé et maintenant, il attend sa réponse. Il se dit, « Ouais, moi, je vais attendre. » Et si vous regardez bien dans le texte qu'on a lu, il nous présente un petit peu son attente comme le rôle d'une sentinelle. Donc, une sentinelle, vous voyez l'image à côté, à l'époque, c'était les personnes qui se tenaient sur les murailles de la ville pour regarder. Est-ce qu'il y a un ennemi qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient au loin? Et lorsqu'il voyait, bien, il était en mesure de l'annoncer aux autres. Donc, ça, c'est le rôle d'un héros. Pas un héros comme un super-héros, mais un héros comme celui qui proclame. Donc, ça sonne pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et dans le texte, en fait, dans la langue originale, on voit un peu ce rôle-là aussi, parce que quand il lui parle d'écrire ça sur des tablettes, il dit de courir pour le proclamer, littéralement. Donc, on peut-être votre traduction, du moins la traduction, on le voit un petit peu moins ici, mais il y a cette idée-là d'un rôle de proclamateur, mais un rôle aussi de sentinelle, qui est un rôle qui, ma foi, devait être plate des fois. Tu sais, tu passes toute la nuit sur une muraille puis t'attends pour voir qu'est-ce qui va arriver puis peut-être qu'il va rien arriver. Mais ton rôle, c'est d'attendre. Et ce rôle-là, il était essentiel à la sécurité d'une ville. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il est comme essentiel à notre parcours spirituel aussi. Il y a des moments où Dieu nous établit, nous demande d'attendre. Et c'est essentiel. Et on doit apprendre à prendre plaisir à l'attente, même si ce n'est pas naturel. Alors, c'est ce qu'il nous dit. Hein? Il nous dit, moi, je vais attendre. Et Dieu l'encourage à être patient. Il dit, merci d'attendre ici, Habacuc. C'est bien. Je valorise ton attente. Il lui dit, attends comment? Avec confiance. Donc, on peut attendre avec impatience. On peut attendre avec doute. On peut attendre de toutes sortes de manières. Mais Dieu lui dit, devant toute cette injustice-là qui se produit en ce moment, celle qui risque d'arriver dans le futur, je te demande d'attendre mon intervention avec confiance. Je te demande d'attendre même si c'est long, même si ça te paraît long. Je te demande d'attendre parce qu'il y a un temps fixé. J'ai choisi un moment où je vais intervenir. Et là, j'ai mis en parenthèse, mais Habacuc ne le connaît pas. Est-ce que ce n'est pas souvent comme ça dans notre marche avec le Seigneur? On sait que Dieu va agir, on a la foi que Dieu va faire quelque chose, mais on ne sait pas quand. Donc, ça nous paraît long, un petit peu comme le monsieur qui est assis là et qui a une toile d'araignée à son nez. Là, ça lui paraît tellement long, là, tu sais, qu'il y a des toiles d'araignée qui sont capables de se former sur lui tellement qu'il attend. Nous autres aussi, des fois, on trouve ça long. Oh! C'était à point, cette petite sonorité. Vous pouvez quand même l'éteindre, merci. Et ce qu'on voit dans le texte, c'est que pendant son attente, Dieu fait quelque chose dans le cœur d'Habacuc. Il commence à lui révéler des choses par rapport à sa justice, donc à la justice de Dieu, et il commence à lui révéler quelque chose aussi par rapport au méchant, à celui qui cause les injustices. Donc, il y a quelque chose. L'attente, elle n'est pas vaine, là. Durant son attente, Dieu fait un travail dans son cœur. C'est un petit peu ce que Dieu fait aussi en nous pendant qu'on attend. Il fait un travail à l'intérieur de nous. Et voici ce que Dieu va dire à Habacuc. Il va lui dire, « Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. » Certes, le vin est traître, l'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort, il accueille toutes les nations, il rassemble auprès de lui tous les peuples. Mais tous feront de lui un sujet de proverbe, de moquerie et d'énigme. En gros, Dieu est en train de lui dire, tu sais, Habacuc, il y a un moment où le méchant qui rassemble plein de gens autour de lui pour leur faire du tort, hein, qui est comme, Habacuc va nous dire, il a la bouche grande ouverte comme le séjour des morts, il n'est jamais rassasié de faire le mal qu'il fait. Mais un jour, ça va se revirer contre lui. Dans notre relation avec Dieu, Dieu nous appelle à nous humilier volontairement devant lui. Hein? On sait... C'est pas parce que Dieu est orgueilleux ou parce que Dieu est imbu de lui-même, mais c'est parce que Dieu est grand et c'est la réponse naturelle du cœur de devant Dieu s'humilier. C'est un petit peu comme, je sais pas s'il y en a qui aiment le plein air ici. Il y en a-tu qui aiment ça, le plein air? On va dans la nature, on voit, ma foi, peut-être vous êtes sur une montagne, vous voyez... tout autour de vous, l'eau, comment c'est grand, où vous regardez les étoiles, pas à Montréal parce qu'il y a trop de lumière, mais vous sortez de Montréal puis vous regardez les étoiles, waouh, c'est beau, c'est grand, c'est infini. Et je suis donc bien petit à comparer de ça. Ça nous remplit d'un émerveillement et ça nous remet un peu à notre place dans le cosmos. Oh, finalement, je ne suis pas le centre de l'univers. Eh bien, Dieu dit à Habacuc, il y a un jour où ce méchant-là qui est très arrogant va se rendre compte qu'il n'est pas le centre de l'univers. Ça vient ce jour-là, Habacuc. Il n'a pas voulu s'humilier volontairement devant moi, devant le monde entier, devant la création. Eh bien, ça va, un jour, il n'y aura pas le choix de s'humilier. Comme la parole de Dieu nous dit, « En tout genou fléchira devant notre roi. » Et Dieu continue avec Habacuc et lui dit ceci. Voici ce qu'ils diront. Quel malheur pour vous. Vous entassez des biens qui ne sont pas à vous. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de sa dette. Ceux qui vous ont prêté de l'argent arriveront tout d'un coup. Ils se réveilleront et vous feront trembler. Ils vous voleront à leur tour. Vous pillez beaucoup de peuples. Alors les peuples qui restent vous pilleront de la même façon. En effet, vous répandez le sang. Vous agissez avec violence contre les pays, les villes et leurs habitants. Dieu dit, Habacuc, est-ce que tu réalises qu'est-ce qui se passe? Le méchant est en train de s'endetter devant moi. Ça a l'air que ça va bien pour lui en ce moment. Hein? Tout a l'air de bien lui fonctionner. Un petit peu comme si je me faisais sortir plein de cartes de crédit, là, hein, puis que je roulais avec ma belle voiture. Vous ne sauriez peut-être pas que c'est tout à crédit puis que je ferais la grosse vie. Mais éventuellement, la banque, elle dirait « Oh, oh, faut que tu me payes! » Et ne me laisserait pas aller comme ça indéfiniment. Et donc, ce que Habacuc apprend de Dieu, c'est que l'homme ou la femme qui commet l'injustice est en train, en grosso modo, d'accumuler une dette spirituelle devant Dieu et que cette dette-là ne restera pas impayée indéfiniment. Donc, Dieu va demander des comptes, il va nous demander à tous de rendre des comptes et c'est la même chose pour la personne qui fait le mal. Il continue ainsi, il lui dit, « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes. » Afin de placer son nid sur les hauteurs pour se garantir de l'atteinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidée en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Même les pierres des murs crieront et vous accuseront, et les bois qui soutiennent la maison leur répondront. Vous souvenez-vous, la semaine passée, quand Habacuc parlait du méchant, il disait « Le méchant, c'est comme un prédateur, c'est comme un aigle, hein, l'aigle qui vient un peu cette image proie, comme ça au vol. » Eh bien là, Habacuc ramène un peu cette image-là. Il lui parle de l'aigle, il dit « Écoute, dit, moi, je suis capable d'attraper toutes les proies que je veux, mais moi, là, le malheur, là, ça ne me touchera pas. Là. Je suis tellement puissant là, que ça ne m'atteindra pas. » Et Dieu dit « c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. » Lorsque le méchant pêche, il se fait du mal à lui-même. Ben oui, à lui-même. Il dit « Habacuc, c'est contre lui-même qu'il pêche. » Oui, c'est vrai, il pêche contre Dieu, mais il se fait du tort à lui-même aussi. Il dit « C'est son déshonneur, le déshonneur de sa famille qui est en train de choisir quand il fait le mal. » Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas sans conséquence ce qui se passe en ce moment pour sa vie. Et il continue. Il lui dit encore, « Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. C'est pourquoi les peuples se fatiguent pour du feu. Les populations se donnent du mal pour rien. Est-ce que tout cela ne vient pas du Seigneur de l'univers? Oui, tous connaîtront la gloire de Dieu et elle remplira la terre comme l'eau remplit la mer. » Habacuc, le méchant travaille fort, mais il se fatigue pour rien. Il pense qu'il est en train d'accumuler bien des affaires. Mais c'est pas ça qui se passe à Habacuc. Voyez-vous les images de la dame là, qui est tellement fatiguée qu'il met son café à côté de sa tasse? Là? Le monsieur qui se casse tellement la tête qu'on voit toutes les idées derrière là, qui se bousculent. Ça durera pas ça dans l'éternité. Ça ne durera pas, toute cette méchanceté-là, tout le fruit des choses qui sont amassées à travers l'injustice. C'est juste temporel, ça. Il se fatigue pour rien. Il ne l'amènera pas dans sa tombe, là, son gros montant d'argent, son pouvoir. Il lui dit quelque chose d'intéressant. Il lui dit, « En effet, la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, tout comme l'eau, comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Vous voyez l'image ici à côté, on l'a vu aussi la semaine dernière. Habacuc disait, « Ah, Seigneur, tu as créé le monde là comme des petits poissons. Il n'y a pas personne pour les guider. » Et le méchant vient, il l'attrape dans son filet, il est tellement content. Hein, il nous attrape tous dans leur filet, il est tellement content, il sacrifie à son filet. Et là, Dieu dit à Habacuc, « Hey Habacuc, un jour, là, la connaissance de ma gloire, de ma puissance, de ma présence, là, ça va recouvrir tout ça. Ça va inonder tout ça. » Avez-vous déjà vu ça, vous, une inondation? Oui, vous avez vu des photos. Est-ce que l'eau dit, « Ah oh, non, non, je ne rentrerai pas là. Ah oh, non, 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 ça ne non, ça me tente pas. Il y a une petite craque là, dans la vitre de la voiture, mais je ne rentrerai pas là. Les fenêtres sont ouvertes, là, mais je ne rentrerai pas là, ça ne me tente pas. » Non, quand l'eau arrive, se déverse, elle remplit tout ce qu'il y a. Les petits poissons là, qui sont dans la mer, là, ils nagent dans quoi? Ils nagent dans l'eau. Ils sont pleinement recouverts de cette eau-là. Et c'est l'image que Dieu donne à Habacuc. Il dit, « Arrête, prends une pause en ce moment, là, pendant que tu attends, réalise qu'un jour, là, toutes ces situations-là que tu vois d'injustice vont être recouvertes par ma présence. » Pensez-y un moment. À quoi ça ressemblerait les situations d'injustice que vous vivez en ce moment si elles étaient inondées de la présence de Dieu, si elles étaient inondées de sa puissance? Pendant que vous attendez, commencez à le voir par la foi, commencez à l'imaginer. Parce que c'est quelque chose qui s'en vient. La présence de Dieu qui sera déversée sur nous. Habacuc continue. Il dit « Quel malheur pour vous! Vous donnez à boire aux autres une boisson dangereuse comme du poison. Vous voulez qu'ils deviennent ivres pour les voir tout nus. Mais vous, vous serez couverts de honte et non d'honneur. Buvez à votre tour, montrez-vous tout nus. Le Seigneur vous obligera à boire la coupe de sa colère. Votre honneur se changera en honte. » Oh, c'est dur, hein, la coupe de la colère de Dieu. Est-ce que ça peut nous rendre mal à l'aise un petit peu? Peut-être. Mais quand on est confronté à l'injustice, à des grandes injustices, à des grandes souffrances, on a à l'intérieur de nous ce désir-là de la justice de Dieu, n'est-ce pas? On se dit, mon doux, Dieu devrait être en colère par rapport à ça. Et Dieu dit, oui, je suis en colère contre l'injustice. Mais gloire à Dieu, il y a deux coupes dont la parole de Dieu nous parle. Est-ce que vous reconnaissez une de ces deux coupes-là? Je vous donne un indice, là. Une fois par mois, on s'en souvient de cette coupe-là, là, ici à l'Oasis. Elle vient avec du pain, là, Jésus, dans une chambre haute. Ça vous dit-tu de quoi? Ah oui, la Sainte Seine. La parole de Dieu nous dit, utilise cette image-là, nous dit, il y a la coupe de la colère de Dieu qui va être déversée sur ceux qui font l'injustice. Mais la parole de Dieu nous dit aussi, mangez et buvez. Donc, même le méchant, c'est pour vous. C'est mon corps qui a été brisé pour vous. Donc, même le méchant a le choix de quelle coupe il veut s'abreuver. Dieu nous appelle tous à choisir la coupe de la communion plutôt que la coupe de sa colère. Dieu nous invite à sa table. Mais il nous met aussi en garde en nous disant « Viens à ma table, mais si tu ne viens pas à ma table, il y a quelque chose là qui t'attend. Et ce n'est pas le désir de Dieu qu'aucun d'entre nous passe par le jugement. » Mais il nous dit quand même la vérité. Dieu est en colère contre l'injustice, contre le péché. Et il continue comme ceci. « Oui, la violence que tu as commise contre le Liban se répandra chez vous. Vous avez tué des animaux, alors des animaux vous feront trembler de peur. Tout cela arrivera parce que vous répandez le sang, parce que vous agissez avec violence contre les pays, les villes et leurs habitants. À quoi sert de fabriquer des faux dieux? Ce sont seulement des statues en métal qui font croire à des choses fausses. Cet artisan met-il sa confiance à fabriquer et elle ne parle pas? Alors, pourquoi cet artisan met-il sa confiance en elle? Quel malheur pour vous! Vous dites à un morceau de bois, réveille-toi. Vous dites à une statue de pierre qui ne parle pas, arrête de dormir. Pourtant, ils ne peuvent rien vous apprendre. C'est vrai, ces statues sont recouvertes d'or et d'argent, mais il n'y a aucun souffle de vie en elles. Le Seigneur, lui, habite dans son temple saint, que toute la terre se taise devant lui. Habacuc, le méchant, il est seul. Il est sans soutien. Il y a des belles idoles qui brillent, mais au fond, ces idoles-là ne sont pas capables de lui enseigner. Au final, pas de venir à son secours. Le méchant s'appuie sur des choses qui, au final, ne peuvent rien pour lui. C'est éphémère. C'est des illusions sur lesquelles il s'appuie. Mais toi, Habacuc, souviens-toi, je suis encore dans mon temple. Hein? Je règne encore. Je suis encore tout-puissant, Habacuc. Et toi, tu le sais, que toute la terre se tienne en silence devant Dieu. Et le chapitre se termine comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on se tait généralement? On attend. Hein? On attend que quelqu'un d'autre parle. On est dans une posture d'humilité. Et Dieu appelle à... une attente respectueuse, une attente qui est consciente que Dieu est tout-puissant, même si je ne le vois pas encore, même si je ne le comprends pas. Alors qu'Habacuc attend, il découvre le plan de Dieu donc pour l'humanité. Dieu a fixé un moment pour le jugement. Ça peut être difficile pour nous de comprendre. Hein, on se dit, oui, mais pourquoi Dieu, là, il snappe pas le méchant comme ça? Pourquoi il le foudroie pas, là, un peu comme on voit dans les films, là, avec un éclair, là, qui tombe dessus, là, puis bzzz, c'est terminé? La parole de Dieu nous rappelle, hein, pas dans le texte d'Habacuc, mais ailleurs, que Dieu veut que tous viennent à le connaître et qu'il fait preuve de patience. C'est drôle, hein? Quand moi, je subis la conséquence de mes péchés, des fois, je peux avoir tendance à dire « Oh, j'aurais tellement aimé ça que Dieu me fasse grâce. Oh, si seulement Dieu avait été plus patient avec moi. » Mais quand c'est les autres qui sont dans le péché, hein, on n'aime pas ça que Dieu soit patient avec eux. On préférerait le jugement. Mais Dieu dit « Moi, j'ai fixé un moment. » Oui, on sait qu'il y a un jugement éternel qui arrive pour tout le monde. Hein, Dieu a fixé, on le connaît de chaque personne. Hein, le moment de sa mort, certainement. Hein, Dieu a fixé, on ne le connaît pas. Il y a des jugements aussi qu'on vit dans notre vie, pendant qu'on est encore en vie, les conséquences de notre péché. Mais Dieu dit, mon plan là, c'est qu'il y a un moment fixé pour ces choses-là. Et il lui dit, il y a une révélation qui va envahir complètement le monde de ma gloire, de ma puissance, de ma présence. Ça s'en vient, Habacuc. Pendant que tu attends, là, je te montre que j'ai un plan. Je te montre c'est quoi mon plan. Je t'aide à comprendre c'est quoi mon plan. Pendant qu'il attend, Dieu l'aide à découvrir sa perspective sur ceux qui causent les injustices. Alors, Dieu lui parle du méchant. Il dit, tu sais, Habacuc, il va être un jour humilié, ce méchant-là, et il se fait du mal. Hein? Deux choses qu'on a vues un peu plus tôt. Il dit, tu sais, Habacuc, le méchant, il est endetté, il est sous la condamnation, là. Tu sais, Habacuc, le méchant, il s'épuise pour rien, puis... Finalement, il n'y a rien ou personne qui va venir à son aide parce qu'il s'est éloigné de moi et il s'appuie sur des choses qui sont fausses, qui sont éphémères, qui ne dureront pas là. Il a l'impression d'être fort, mais il ne l'est pas vraiment. Et alors qu'il attend, Habacuc se rallie à Dieu qui règne dans son temple. Alors qu'il est dans l'attente, hein, il demeure conscient de la souveraineté de Dieu, de sa puissance, de son pouvoir. Et aussi, il fait route avec Dieu qui l'appelle à attendre avec lui. Dieu, ayant fixé un moment précis pour le jugement, Dieu se montre patient. Donc Dieu, il attend le moment qu'il a choisi pour juger. Il dit à Habacuc, voudrais-tu attendre avec moi, même si c'est long? Voudrais-tu attendre avec confiance? Et ici, là, le mot confiance, on parle de la foi. On l'a vu un peu plus tôt, mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La foi. On sait la foi, c'est la confiance. Dans le contexte de ce texte-là, persévérance, c'est une patience à persévérance. Donc, la persévérance, c'est une patience active. Hein? On choisit de continuer à avoir la foi. On choisit de continuer à persévérer avec Dieu. Et ce passage-là d'Habacuc va être repris dans le Nouveau Testament aussi. Et Bruno dira, « Et mon juste vivra par la foi », il cite le prophète Habacuc ici, « Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'inverse est vrai, hein? Ça veut dire que quand on reste dans la foi, Dieu prend plaisir en nous. Dieu est fier de nous quand on choisit d'attendre avec la foi. Dieu célèbre notre persévérance, frères et sœurs. Et il nous appelle à nous jeter un peu comme cet enfant-là dans les bras de son père. Il nous appelle à vraiment entrer dans l'intimité avec lui alors qu'on attend, à se rapprocher de lui. Et alors qu'on se rapproche de lui, c'est là qu'il nous révèle son plan pour l'humanité. C'est là qu'il nous aide à transformer notre vision du monde. Parce que l'attente, elle ne se vit pas séparée de Dieu, elle se vit avec confiance. On le sait, hein, parfois, avec Dieu. On se rallie à Dieu. Et Dieu le sait, hein, parfois on essaie de marcher comme ça en équilibre entre mes incompréhensions, mon désir d'avoir la foi, ce que je vois. C'est pas toujours facile de garder l'équilibre, hein, un peu comme cette dame-là. Mais Dieu est là pour nous fortifier dans notre attente. Dieu est là pour nous aider. Frères et sœurs, n'ayons pas peur des saisons d'attente, mais accueillons-les comme des moments où on peut laisser Dieu downloader en nous, pardonnez-moi l'anglicisme ici, télécharger en nous sa perspective du monde. Comment il veut nous parler par rapport à qu'est-ce qu'on vit? Comment il veut nous transformer? Et Dieu prend plaisir à notre attente. Donc, ce matin, notre défi est celui-ci. Attends. La semaine passée, on a parlé. Maintenant, on attend. La deuxième posture, on commence en parlant et ensuite, ben, vient un temps où on se tait, où on attend avec Dieu. On attend en acceptant la patience de Dieu pour l'humanité. Alors qu'on attend, on adopte la perspective de Dieu par rapport aux méchants. Et j'aimerais ajouter ici, on peut intercéder pour eux. Maintenant qu'on sait, hein, vous comprenez que le méchant, il n'y en a pas de soutien là, en ce moment. Il s'appuie sur des choses qui sont éphémères. On comprend que le méchant, il accumule une dette devant Dieu à cause de son péché. Prions, frères et sœurs. Demandons à Dieu, dans notre attente, de nous remplir de compassion pour les gens qui font le mal. Remémorons-nous ces deux couples-là. Ô Seigneur, que ces gens-là puissent goûter la coupe de ton sang qui a été versé pour eux, plutôt que la coupe de la colère. Alors qu'on attend, on se souvient que Dieu règne et on choisit de demeurer dans sa présence. Cette semaine, je vous invite à voir avec vous ces images-là de Dieu qui est dans son Saint-Temple, de Dieu qui recouvre toute la terre comme de l'eau qui recouvre la mer, que sa présence environnante rempli. Toutes ces relations-là qui sont défectueuses, toutes ces situations-là qui sont brisées par le péché, parce qu'on sait que c'est ce qu'on peut prier que déjà dans l'éternité, que la présence de Dieu va se révéler. Et on peut prier que déjà aujourd'hui, dans ces situations-là, la présence de Dieu soit déversée. C'est notre privilège comme enfant de Dieu, le privilège d'attendre avec Dieu dans l'intercession, dans la prière, dans l'intimité avec lui. Donc, ce matin, le message est simple, le message est relativement court. On est appelé à attendre avec Dieu. Alors, attends ce matin. Attends avec ton Dieu par la foi. L'attente, parfois, nous est imposée. Elle peut nous éloigner de Dieu. Hein, il y a des gens qui vont, dans leur moment d'attente, hein, ils vont dire, « Ah, ben moi, Dieu, je veux rien savoir. Hein, Dieu m'a pas répondu, donc Dieu doit pas exister. Dieu a pas puni le méchant encore, donc Dieu doit être injuste. » Et on tire toutes sortes de conclusions quand on n'attend pas avec Dieu, quand on n'attend pas par la foi. Dieu nous invite ce matin à attendre avec lui, avec lui. Avec lui, dans sa présence, par la foi. Frères et sœurs, prions ce matin avec persévérance. Frères et sœurs, prions ce matin. Prions pour que Dieu nous donne la grâce d'attendre d'une manière qui le glorifie. Éternel, ce matin, nous venons devant toi. Nous te prions, Éternel, de nous donner la grâce de savoir attendre avec toi. Seigneur, tu nous appelles à être des sentinelles, à nous tenir dans l'attente, dans l'espérance de ta réponse. Tu nous appelles à attendre avec confiance, avec cette vision-là qu'il y a un moment que tu as fixé, même si on ne le connaît pas, Seigneur, même si ça nous paraît long, Seigneur, tu nous dis « attends ». Et Seigneur, ce matin, on veut être fidèle, on veut attendre avec toi, Seigneur Dieu, étant conscient que tu es encore assis sur ton trône, même si les choses vont mal dans ce monde, tu règnes encore, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es fidèle à ta compassion envers tous les hommes, même ceux qui sont méchants, Seigneur. même ceux qui commettent des injustices. Merci pour ton amour débordant pour eux, Seigneur. Nous te prions ce matin, Seigneur Dieu, qu'ils puissent goûter à la communion, au pardon à travers le sang de Christ qui a été versé, Seigneur, plutôt qu'à la coupe de ta colère, Père. Parce que ton désir, c'est qu'aucun homme, aucune femme ne se perde, mais plutôt que tous viennent à te connaître. Donc, Jésus, donne-nous la force, la persévérance de demeurer dans l'attente avec toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette capacité de voir par la foi comment ta présence va un jour inonder toutes ces situations-là, Père. Et nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen.